l'Arc, on voulait vous faire le point, vous parler d'actualité de notre point de vue, des combats qui nous entourent, des prochains événements de notre réseau. Le tout sous forme de chroniques et de billets d'humeur libres, dans ce qu'on a appelé les chroniques du taf au fumoir. Avec aujourd'hui, Anne, Fabienne, Lauriane, Adrien et Raphaël. Bonne écoute.
L'autre jour, le secrétaire d'État à la digitalisation nous expliquait qu'il avait bien compris que la numérisation de la société ne pouvait pas laisser des gens de côté et qu'il fallait faire quelque chose. Je me suis dit « chouette, enfin le progrès pour tous ». Et puis il a développé sa pensée et j'ai presque avalé de travers. Pour lui, la fracture numérique, c'est, je le cite, aussi bien Alan qu'à Molenbeek. Pour lui, la fracture numérique, c'est aussi bien Tanjanine qui profite de la communion du petit pour demander à son petit-neveu de lui montrer comment introduire un mot de passe sur son smartphone, qu'une habitante de Molenbeek qui doit se lever à 4 heures pour être dans les premiers de la file à l'administration communale, je n'exagère pas, pour demander un acte de naissance qu'on finit par lui tendre en lui expliquant avec de gros yeux qu'elle aurait pu le faire via le site de la commune et qui rentre chez elle toute coupable de n'avoir pas de quoi et de ne pas savoir où aller pour s'éviter ça la prochaine fois. Non, c'est pas la même chose. Ma mère qui s'installe à son PC, se connecte à son Wi-Fi et se demande comment retrouver le mot de passe de son mail, ce n'est pas la même chose qu'un père qui tremble à l'idée que son aîné ne puisse pas faire des études supérieures, faute de bourse, et qui apprend que pour demander une bourse, il doit aller sur tel site internet avec un ordinateur qu'il n'a pas et qu'il ne sait de toute façon pas utiliser. Ma sœur qui râle parce qu'elle n'arrive pas à convertir son CV en PDF, c'est pas la même chose qu'une chômeuse qui est priée de chercher de l'emploi sur le site du Forum et d'imprimer les mails qui prouvent qu'elle a postulé et qu'elle a eu des réponses, alors qu'elle n'a même pas de quoi se payer son électricité chaque mois. Quand je ne reçois pas mes résultats Covid par SMS alors qu'on m'a bien dit que je les recevrais par SMS, je finis par me dire qu'il y a sûrement un autre moyen de les obtenir. Je trouve cet autre moyen parce que j'ai des outils, je sais m'en servir, je comprends le français et le néerlandais, je sais me connecter, introduire mon mot de passe, valider mon mot de passe, confirmer sur mon NITSMI que c'est bien moi et lire le résultat du test. Il paraît que la société de demain sera numérique et il paraît que c'est une bonne nouvelle. Bon, perso, je n'y vois vraiment pas d'inconvénient, mais de là à danser la gigue, il y a quand même un pas que même après 3 Westmal, je ne franchirai pas. J'avoue que j'éprouve quelque chose de l'ordre de la jubilation à l'idée que des machines fassent à la place des gens des choses complètement abrutissantes et mauvaises pour leur santé. Je ne pense pas que quelqu'un ait un jour rêvé de faire sans cesse les mêmes gestes et les mêmes choses dans une manufacture, derrière un guichet ou à la caisse d'un grand magasin. Je pense qu'il y a franchement mieux à faire dans une vie et je pense que beaucoup de choses sont mieux que ça. Je ne pense pas non plus que les fils dans les administrations vont me manquer un jour, ni que je serais moins épanouie si je n'avais pas à remplir moi-même mon caddie au supermarché. Seulement, comme à peu près chaque fois qu'on nous annonce un progrès technologique, on a un tout petit peu oublié certains petits détails qui font une différence énorme. Si tu ne dois plus te péter le dos à scanner des codes-barres à longueur de journée, tu dois quand même bouffer, te loger, payer tes charges et t'acheter de quoi faire un virement, demander un document à la commune ou inscrire tes gamins à l'école. Et si tu n'as pas de quoi t'offrir tout ça, t'es dans une fichue galère qui va finir par couler à force de supporter des problèmes qui vont inévitablement s'accumuler sur ta poire. Et si tu as de quoi aller sur le bon site internet pour payer tes factures ou la bonne appli pour demander un document, c'est pas pour ça que tu sais comment il faut faire, ni que tu as envie de le faire comme ça. Et si tu as envie de le faire comme ça, tu n'as peut-être pas envie d'être obligé d'enrichir au passage Microsoft ou Google. On va sans doute me dire que je vois le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein, et c'est un peu vrai, d'autant que moi, perso, je suis équipée et globalement apte à me débrouiller sur un PC ou un smartphone. Je suis même la cible parfaite des simplifications annoncées. Ménagère de 40 à 50 ans, lettrée, numériquement alphabétisée, solvable, et du coup, trop débordée pour me taper des démarches administratives chronophages et des courses insupportables. Seulement voilà, je gagne ma vie dans le socio-cul. Du coup, j'ai quand même bien conscience du prix des choses et je vois défiler un tas de gens qui n'en ont pas les moyens. Et même un tas de gens qui n'ont jamais touché une souris d'ordinateur de leur vie. Je vous assure que ça existe et qu'il y en a même beaucoup. Même qu'à mon boulot, on a créé un service pour les aider et on n'est pas les seuls. Alors bon, Je veux bien qu'on numérise tout ce qui peut l'être, mais pas si c'est pour enfoncer encore un peu plus, au passage, des gens qui sont déjà exclus de notre société à plein d'égards. Il faudra un jour que nos politiques comprennent ça. Ça devrait être possible parce que ce n'est pas non plus comme si c'était la première fois dans l'histoire que ce qu'ils appellent le progrès oublie un tas de gens au passage. Mais entre ce qui est nécessaire et possible et ce qui est mis en branle, on sait qu'il y a souvent des gouffres que l'associatif et la société civile tentent de combler comme ils peuvent. Et donc pour en parler, on a décidé de contacter deux personnes qui sont très au fait de la situation, Lauriane Poliac du réseau Cabane et Adrien Godefroy, qui est notre collègue à l'ARC et qui développe en ce moment un projet qui s'appelle l'informaticien public. Lauriane Poliac, bonjour. Tu es coordinatrice des activités chez Cabane, qui est un réseau dont tu vas nous expliquer un petit peu en quoi il consiste. Et puis, est-ce que tu peux nous parler de la fracture numérique, nous dire un peu ce que c'est exactement?
Ok. Alors du coup, le réseau Cabane, c'est le collectif des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique. Et donc nous, en fait, on est un réseau associatif. Et donc, on fédère les ASBL qui luttent contre la fracture numérique et autres organismes qui luttent contre la fracture numérique, dont les espaces publics numériques, qui sont en fait des acteurs de première ligne et les acteurs les plus outillés pour aider les citoyens face à l'exclusion numérique. Et donc, la fracture numérique, en fait, c'est un phénomène assez complexe parce que c'est pas un phénomène qui a une seule forme. En fait, c'est un phénomène qui a plusieurs formes. Donc, la fracture numérique la plus évidente, celle à laquelle tout le monde pense, c'est la fracture numérique de l'accès, en fait, au matériel. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas accès à un ordinateur, qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas de smartphone. Donc ça, c'est la fracture numérique du premier degré. Cette fracture numérique concerne 8% des Belges, ce qui est quand même un chiffre assez important dans une société où le numérique, on en a besoin quotidiennement. Ensuite, on a 32% des Belges qui ont de faibles compétences numériques. Donc, en fait, ça, ce sont des gens qui ont accès, qui ont un smartphone ou un ordinateur, mais qui savent peu l'utiliser et pas de manière efficace et pas d'une manière qui leur permet d'être intégrés à la société numérique. C'est-à-dire des gens qui ont des difficultés pour chercher un emploi, un logement en ligne, qui ont des difficultés pour remplir des formulaires. Et donc, cette fracture numérique du second degré se traduit parfois en fracture numérique du troisième degré. Et donc, la fracture numérique du troisième degré, ça concerne vraiment l'accès aux droits et la citoyenneté numérique. Et donc ça, c'est une fracture qui est un petit peu plus subtile à saisir, mais qui va concerner pratiquement tout le monde, mais vraiment à des degrés très divers. C'est-à-dire qu'en fait, la fracture numérique, ça ne concerne pas un profil type. Maintenant, c'est un profil qui concerne presque tout le monde. Presque tous les citoyens peuvent se retrouver, même momentanément, dans une situation de fracture numérique.
Mais peut-être pas avec les mêmes ressources et outils pour s'en sortir quand même.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les plus défavorisés, comme toujours, ce sont les personnes qui sont précaires, donc les personnes avec un faible niveau de revenu et les personnes avec un faible niveau de diplôme. Tout simplement parce que le numérique, non seulement c'est coûteux, il faut du matériel, mais il faut surtout du bon matériel. Parce que 82% des gens se connectent à Internet avec un smartphone, mais pour certains, c'est leur seul accès. Et quand le seul accès, c'est le smartphone, ça devient très problématique. Parce que je crois que c'est environ 21% des gens qui n'ont qu'un seul smartphone comme outil de connexion. Et ce sont les personnes avec de faibles niveaux de revenus. Mais pour ces gens-là, en fait, avec un smartphone, on ne peut pas remplir un formulaire administratif. Vous ne pouvez pas faire Taxon Web avec votre smartphone. Ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup plus difficile pour envoyer des mails formels avec des pièces jointes. Voilà, un smartphone, c'est vraiment pas un outil polyvalent. Ça dépanne, c'est un outil, on peut se divertir, on peut avoir des applications utiles dans la vie quotidienne, mais ça devient très difficile pour faire la moindre démarche, pour contacter des gens de façon formelle, etc. Et donc, du coup, bien entendu, les catégories de la population les plus défavorisées sont aussi les plus exclues et ils disposent de moins bons outils pour se connecter. Et c'est aussi plus cher pour ces gens-là parce qu'en smartphone, on se connecte, parfois, les familles n'ont pas le Wi-Fi. Donc, les familles ont un forfait 4G. Avoir un forfait 4G pour l'ensemble d'une famille avec un ou deux smartphones, ça revient très vite beaucoup plus cher parce que quand on va dépasser le forfait, qu'est-ce qui se passe? Soit le débit est fortement réduit, on ne peut plus rien faire, soit on paye beaucoup plus cher. Mais quand on a besoin du smartphone pour faire l'école à la maison des enfants, du télétravail pour les parents et faire les démarches administratives et en plus les enfants qui vont vouloir, c'est normal, accéder à YouTube, etc., on explose très vite les forfaits et on a vraiment des gens qui ne peuvent pas profiter d'Internet et qui sont du coup exclus de la société numérique, en fait.
Et donc, toi, tu fais partie du réseau Cabane. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les outils mis en place, que ce soit d'ailleurs par l'associatif, par des privés éventuellement, ou par les pouvoirs publics pour résorber cette fracture?
Alors, pour résorber cette fracture, d'abord, au niveau politique, il y a des études et il y a des recommandations en fait, qui sont faites pour l'accessibilité des sites administratifs. Il y a tout un travail à faire là-dessus. Parce qu'il faut que les sites administratifs soient adaptés en smartphone, enfin pour les smartphones, etc. Donc là, il y a des études et des discussions qui sont en cours pour simplifier l'accès justement à ces sites-là. Mais en fait, le gros du travail s'est fait en fait par le terrain associatif, parce que le terrain associatif, en fait, si vous voulez, récupère les gens qui ont tout de suite, là maintenant, besoin d'aide de façon urgente. Et en fait, c'est assez large les acteurs qui s'occupent en fait, enfin qui résorbent en fait la fracture numérique du troisième et du second degré, ce sont du coup parfois des assistants sociaux qui sont confrontés en fait à des bénéficiaires qui peuvent pas utiliser Internet, qui peuvent pas faire leur dossier tout seuls, et du coup les assistants sociaux prennent un peu un rôle d'assistant numérique parfois, alors qu'ils sont pas forcément formés, ils ont pas forcément le temps. Ensuite on a des ASBL de terrain qui parfois n'ont pas vraiment de lien avec la fracture numérique, peuvent parfois de manière ponctuelle aider leurs bénéficiaires. Des associations pour les seniors, par exemple, qui se mettent tout à coup à aider les gens avec leur smartphone. Ça existe aussi. Et ça, c'est un travail vraiment invisible. Et ensuite, on a les espaces publics numériques, qui, eux, vraiment sont au cœur de la dynamique d'inclusion numérique et qui, de plus en plus, et surtout avec la crise du Covid, ont des demandes de type aide administrative en ligne. Seulement, c'est que ces demandes posent un petit peu problème dans les EPN parce que ce sont des demandes d'aide qui vont prendre beaucoup de temps. Et les EPN ont des animateurs multimédia. Souvent, il n'y a pas assez d'animateurs multimédia dans les EPN et ils ont beaucoup de travail. Donc, si vous voulez, quand dans un EPN, on a par exemple une salle de 10 PC et qu'on a deux personnes qui demandent de l'aide administrative, on va prendre 30 minutes pour chaque personne. Ça fait déjà une heure de la journée qui a été investie par l'animateur multimédia pour aider seulement deux personnes. Donc, du coup, c'est compliqué pour les animateurs multimédia de faire face à ça. Et aussi, les animateurs multimédia ne sont pas forcément formés aux démarches administratives. Et surtout, ça pose le problème de la confidentialité des données des usagers. C'est-à-dire, les animateurs multimédia sont en contact avec des données très personnelles. Parfois, ils voient la carte bancaire de la personne qu'ils essayent d'aider. Ils voient des dossiers médicaux. Et ils ne sont pas formés à ça. Ils ont, pour beaucoup, pas de charte de déontologie. Ils n'ont vraiment rien qui les protège. Du coup, ça, c'est un problème. Mmh. Après, il existe des initiatives plus spécifiques sur le terrain, comme l'informaticien public, qui est développé de façon professionnelle et étendu surtout par l'EPN de l'Arc.
Ouais, et ça, on va en parler tout à l'heure avec Adrien.
D'accord, parce que du coup, l'informaticien public répond à ce besoin très spécifique. En fait, c'est un nouveau métier. C'est pas des assistants sociaux, c'est pas de l'informaticien public, c'est pas de l'animateur multimédia. Du coup, c'est un nouveau métier. Et en fait, le fait de digitaliser toutes les démarches administratives, c'est vrai que ça fait faire des économies parce qu'on a moins d'agents, on a moins de guichets. Mais au final, il faut créer des nouveaux métiers d'aidants numériques. Donc, du coup, la question du bénéfice purement économique, on peut quand même se la poser parce qu'il va falloir créer des postes de gens pour aider les personnes qui n'ont pas accès au numérique ou pour qui ces démarches sont juste trop compliquées.
Mmh. Et donc, toi, en tant que représentante ici du réseau Cabane, je suppose que tu sais plus ou moins où on en est au niveau politique, au niveau de la sensibilisation à cette question. Je suppose que tu as certains espoirs, mais est-ce que tu penses qu'on peut être optimiste? Est-ce que tu penses que demain étant dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans, j'en sais rien, tous ceux qui souhaitent intégrer cette société numérique, parce qu'il y a aussi des gens qui ne souhaitent pas, est-ce que tous ceux qui souhaitent l'intégrer pourront le faire? Ou qu'est-ce qui manque? Ou qu'est-ce qui, d'après toi, n'est pas encore rentré dans la tête de nos décideurs?
Alors, je pense qu'il manque. Il manque pas mal de choses. Après, on voit depuis la crise du Covid qu'en fait, l'inclusion numérique et la fracture numérique sont des problèmes qui préoccupent réellement les politiques. Il y a un réel intérêt de plusieurs ministères pour la fracture numérique parce que les politiques se rendent bien compte que c'est un problème qui touche tous les domaines. Ça touche l'emploi, ça touche le social, ça touche la culture, ça touche la jeunesse, parce que les jeunes ne sont pas en reste en termes d'exclusion numérique. Et donc, on voit un réel intérêt et il y a des vraies actions qui ont été prises. Par exemple, c'est la première fois qu'on a un plan d'appropriation numérique qui s'attaque uniquement au problème de la fracture numérique, un plan de quand même presque un million d'euros au total. Donc, ce sont de belles sommes. Maintenant, il faut que les actions soient bien menées, soient menées dans le bon timing, soient menées avec les bons acteurs, avec les bons partenaires. J'insiste sur le fait qu'il faut les mener avec les partenaires de terrain qui connaissent vraiment la réalité. Mais du coup, les politiques font des choses. Donc, du coup, on ne peut pas leur enlever le fait qu'ils s'intéressent sérieusement à la problématique. Mais on peut aussi se demander si ça n'intervient pas un peu trop tard, parce que ça intervient maintenant qu'il y a eu le Covid. Mais la fracture numérique est un problème qui traîne, entre guillemets, depuis déjà 15 ans, parce que ça fait déjà longtemps qu'on veut passer au tout digital, qu'on veut passer au tout numérique. Et c'est seulement maintenant qu'on se pose la question de, en fait, est-ce que les citoyens ont les compétences et est-ce que les citoyens vont suivre ce rythme? Donc, ce qui est très bien, c'est qu'on s'en occupe enfin, ça se fait, il y a des actions et nous, de notre côté, on est content de voir qu'il y a un vrai intérêt. Mais voilà, on espère que ça sera mené de façon cohérente, que ça sera bien mené avec le terrain. Ouais. Voilà.
Et donc, le Covid aura au moins servi à mettre ça en évidence, ça c'est certain.
Oui, le Covid a mis ça en lumière, ouais. Parce qu'en fait, le Covid a un petit peu fait faire un bond forcé à la société de 20 ans en avant. C'est-à-dire que le Covid a accéléré la digitalisation de manière extrêmement brutale et parfois de manière un petit peu aveugle. Je pense à des exemples qui sont tout à fait d'actualité, comme pour réserver un rendez-vous pour un test Covid, qu'il faut passer en ligne. Il existe un numéro vert, mais les résultats sont reçus sur une adresse mail. Et donc, du coup, je me pose la question de comment font les gens qui ne sont vraiment pas à l'aise avec le numérique, qui sont exclus. Pour eux, ça induit sans doute des délais, des démarches plus compliquées. Il faut contourner le numérique et c'est une perte de temps pour ces gens-là. En fait, le passage au tout numérique n'est pas forcément efficace. Mmh. Pour les citoyens, c'est pas efficace. C'est pas forcément un gain de temps. C'est pas forcément un gain de facilité. Donc voilà.
D'autant que pour l'anecdote, moi, j'ai passé le test deux fois. On m'a promis que j'aurais les résultats par SMS. Je n'ai jamais reçu le moindre SMS. Donc, j'ai dû quand même me connecter pour avoir mes résultats.
En fait, on est allé trop vite avec des systèmes qui n'étaient pas capables de suivre, même techniquement. On pense aussi aux plateformes en ligne pour l'école à la maison qui buguaient parce qu'il y avait beaucoup trop de monde dessus. Donc, en fait, voilà, le Covid provoque une digitalisation et un usage vraiment dans toutes les strates de la société du numérique par défaut, alors qu'on n'est ni prêt socialement, ni prêt techniquement. Et donc, voilà, le problème du Covid, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on va pouvoir revenir en arrière. On parle vraiment par exemple, de généraliser le télétravail et tout ça. Et voilà, il faudrait aussi se poser la question de est-ce que les citoyens sont prêts ? Est-ce que nous, on est prêts en tant que société aussi ? C'est aussi un enjeu démocratique. Donc, ce sont des questions à se poser maintenant. C'est le bon moment pour se les poser.
Donc, bonjour Adrien. Tu es un de nos collègues à l'ARC et en fait, on t'appelle parce que Lauriane nous a expliqué les problèmes que pouvaient rencontrer les travailleurs de première ligne par rapport à la fracture numérique. Et alors, on voulait savoir si tu pouvais nous parler un peu des projets que l'ARC développe en la matière.
Oui, pas de souci. Alors, en ce qui concerne l'informaticien public, c'est une des réponses qu'on peut proposer à ce qu'on nomme la fracture numérique. Pour ça, je vais un petit peu revenir à l'origine du projet. On a décidé de mettre en place ce type de permanence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la fracture numérique, ce n'est pas spécialement dans les EPN qu'on la rencontre, donc dans les espaces publics numériques. Nous, ce qu'on s'était dit, c'est que pour rencontrer les personnes qui en avaient le plus besoin, il fallait se rendre dans des associations fréquentées par ces personnes. Parce que bien souvent, ces personnes ne connaissent pas l'espace public numérique, n'ont pas envie ou n'ont pas besoin d'aller suivre une formation informatique ou même une initiation en 5 matinées. Eux, ils ont juste des besoins. Donc, à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de partir d'abord dans une permanence, dans une maison de quartier, proposer un service pendant 3 heures par semaine d'accompagnement numérique pour répondre à des besoins précis, et non pas donner une formation, non pas donner un accompagnement social, mais vraiment répondre à ces besoins concrets qu'ont les gens dans la vie de tous les jours, quoi. Ça peut être un paiement en ligne. Ça peut être utiliser le site de la mutualité. Ça peut être consulter ses dépenses sur les sites des opérateurs téléphoniques. Voilà, toutes des petites choses du quotidien, mais qui sont personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Évidemment, à l'aise avec l'informatique, comme on l'a vu dans le baromètre de l'inclusion numérique 2020, c'est bien souvent les personnes avec les plus bas revenus et des niveaux de qualification ou de diplôme moins élevés. Et donc, voilà, ces personnes, on les rencontre dans les maisons et antennes de quartier, dans les centres de prévention, on les rencontre aussi donc près des logements sociaux, dans toutes sortes d'associations vraiment de terrain. Et donc au début, un informaticien public, deux informaticiens publics, une informaticienne publique, et maintenant on en est à gérer 11 permanences dans différents lieux. 11 permanences, donc ça veut dire à chaque fois 3 heures qu'on se déplace avec notre matériel, un ordinateur, parfois deux, un lecteur de carte d'identité, une connexion internet mobile aussi, parce que les connexions internet sont pas toujours de bonne qualité ou alors même pas toujours accessibles au public qui fréquente les assos dans lesquelles on se rend. Donc voilà, on a vraiment, c'est vraiment décentralisé, plutôt que d'attendre des gens dans les EPN, eh ben, on se rend dans les lieux où les gens sont.
Et est-ce que tu peux nous parler de la collaboration, je pense, indispensable avec les travailleurs de ces associations ?
Oui. Alors, évidemment, ce qui est indispensable pour nous, c'est d'avoir un appui de travailleurs ou travailleuses sociales, parce qu'on n'est pas des assistants ou des assistantes sociales. On est des accompagnateurs, accompagnatrices numériques. Du coup, il est important qu'on puisse compter sur ces personnes quand on rentre dans une démarche qui pourrait nous dépasser ou quand une situation, on va dire, sociale n'est pas claire pour nous, ou alors, même si elle nous apparaît claire, mais on voit qu'en fait, elle n'est pas réglée et que le problème est ailleurs, là, on doit pouvoir compter sur un travailleur ou une travailleuse sociale. Et dans l'autre sens aussi, eh ben, on compte vraiment sur ces personnes, et ça marche d'ailleurs très bien, eh bien, pour faire connaître le service, hein, parce que c'est pas, évidemment, en faisant des sites internet qu'on va faire connaître le service directement aux personnes. Les campagnes d'affichage ou de distribution de fly, ça marche, mais dans une certaine mesure. Le meilleur moyen, c'est d'avoir un bon relais avec les travailleuses et les travailleurs sociaux sur place, et aussi avec les habitants qu'on rencontre, qui vont aussi pouvoir relayer l'information.
Ok, et dernière petite question, je suis un petit peu habitué à jouer avec les outils informatiques divers, je sais très bien les surfer sur Internet et tout, j'ai envie de me rendre utile, est-ce que je peux devenir informaticienne publique ?
Ah, tu pourrais tout à fait, oui. Donc pour le moment, justement, on est en train de recruter, si on peut dire, des volontaires qui ont envie de devenir informaticien ou informaticienne publique. Bien sûr, pour ça, il faut nous contacter. Alors, on propose une petite formation sur le terrain, on propose un accompagnement, on va dire, on propose aussi des rencontres entre informaticiens et informaticiennes publiques afin de discuter, de partager sur les cas concrets qu'on rencontre dans les permanences afin de pouvoir apprendre des uns et des unes des autres. Et voilà, donc on est effectivement dans une phase où, bienvenue aux bénévoles, on est en train de se donner les moyens de pouvoir les accueillir, de les accompagner. Évidemment, être informaticien, informaticienne publique, c'est pas que donner des coups de main, c'est aussi porter la cause, défendre la cause des personnes qui sont victimes finalement de ce qu'on appelle la fracture numérique, mais surtout en fait des personnes qui sont victimes des inégalités.
Mmh. Et c'était une dernière question, mais j'en ai quand même encore une ultime. Je suis présidente de CPAS et je me dis que ça serait bien utile dans ma commune. Est-ce que je peux faire appel à vous ou est-ce que vous êtes un peu... vous avez les moyens de vous développer encore pour le moment ou est-ce que je vais devoir attendre ?
Alors, pour ça, il faut prendre contact avec nous et en fonction du CPAS, on va dire, c'est pas la même réalité partout, on peut travailler ensemble à la mise en place d'un service ou même de plusieurs services d'informaticien public au sein d'une commune avec soit des personnes de chez nous ou alors avec des personnes de leur tissu associatif local qu'on pourrait accompagner et former pendant un certain temps. C'est totalement imaginable et même souhaitable, hein, parce que voilà, plus on est à se préoccuper de cette question-là, au mieux on pourra aider les gens qui en ont besoin et peut-être même on pourra adapter, on va dire, les politiques de numérisation.
Super, merci beaucoup. Pour contacter les informaticiens publics, vous pouvez soit appeler le 02 219 68 88, soit écrire un mail à l'adresse bruxelles@arc-culture.be.
Lève-toi, ouvre ta fenêtre sur le soir. Qui coule au-dessus des toits. Goûte un peu du bout des lèvres le bleu qui voile et apaise le grand feu.
Soir de Pierre. Pierre au pluriel, qui avait généreusement accepté notre invitation en septembre et qui a joué dans notre festival à l'Arc de soutien aux artistes. Durant ce festival, nous avions programmé une quinzaine d'artistes, surtout des groupes de musique. Notre objectif était de soutenir les artistes en leur proposant une scène où prester après la première vague de la pandémie. Chaque musicien du festival avait été payé 100 euros. 100 euros, c'est pas grand-chose quand on sait que pour jouer 45 minutes, il y a de nombreuses répétitions derrière, l'investissement du matériel, les déplacements non seulement vers le lieu de prestation, mais vers le lieu de répétition aussi. Donc 100 euros, c'est pas grand-chose. Et c'est malheureusement représentatif de ce qui se passe dans les petites salles, les cafés-concerts, pour les petits et moyens groupes. Vivre de sa musique actuellement en Belgique, c'est extrêmement compliqué. C'est le cas avec la pandémie, mais c'était déjà le cas avant la pandémie. Le secteur est apparemment saturé. J'avais eu l'occasion de discuter avec deux musiciens en été dernier. Je vais vous faire une petite sélection de phrases qui m'ont marqué lors de cette discussion.
Le gros problème en Belgique, c'est que les artistes n'ont pas un statut clair. À savoir que il y a énormément d'artistes qui ne sont pas inscrits en tant qu'indépendants parce que c'est trop cher d'être indépendant. Vu que d'un mois à l'autre, nos revenus fluctuent énormément. Et pas les charges sociales, bah, du coup c'est super dur d'être indépendant. Donc on est tous à la Smart. Et donc le problème de la Smart, c'est que tu as un contrat qui dure le temps de la prestation. Je me sens complètement pas du tout informé, déjà, premièrement. Parce que, en marge, voilà, c'est vraiment le mot. Parce qu'en fait, vu que j'ai pas de statut clair qui prouve que je suis artiste, j'ai pas non plus les ressources pour aller demander à un tel organisme qu'est-ce qu'il faut faire, ou demander, enfin tu vois, je suis complètement paumé là-dedans.
J'ai l'impression qu'on va de plus en plus booker des gens qui sont à l'aise et qui ont déjà des dates, et qu'on va vraiment mettre de côté et creuser l'écart entre la musique dite populaire qui marche et la musique de marge qui...
Moi, j'avais vraiment espéré un retour un peu à la scène locale. Angèle, elle continuera à avoir des sessions live payées. Loïc Notay, il continuera à avoir des sessions live payées. Mais des gens comme nous, qui pourtant nous battons depuis des années pour essayer de faire vivre notre musique, qui est évidemment un peu plus alternative que la moyenne, c'est extrêmement difficile parce que tout le monde est dans la dèche, quoi. Donc c'est sûr que c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours les mêmes qui souffrent. Les premiers, c'est des gens qui avaient déjà pas de thunes avant, qui étaient déjà un peu en mode do it yourself. Et...
Pourquoi on ne manifeste pas comme les autres? Pourquoi notre cause n'est pas comme une autre? Pourquoi on n'est pas vu comme des travailleurs? Est-ce qu'il y a des jongleurs qui jonglent dans la rue? Il n'y a pas besoin de faire ça. Il y a un réalisateur avec qui j'ai travaillé par la suite qui me disait, moi j'avais juste une envie, c'était de brandir des pancartes comme les autres, quoi, parce que notre cause était égale à toutes les causes des autres. Donc, c'est pas parce qu'on est des artistes que on fait ça par plaisir. Chaque vidéo qui a été postée sur Facebook, c'est presque un appel à l'aide, quoi. Une espèce d'appel à l'aide.
Ouais.
Et les gens le prennent pas comme ça, évidemment, parce que...
Oui, les gens, ils voient le truc, c'est « Oh, c'est mignon, ils ont fait leur petit truc confinement, chacun chez soi. » Et de nouveau, ouais, il faut compter que sur l'entraide, en fait. Les petites structures qui s'entraident entre elles. Les grosses structures, c'est un peu comme si on n'y avait pas accès, tu vois. Genre, t'as un seuil et t'es artiste. Une fois que tu as ce seuil d'être dans les grosses institutions, là, tu as accès à tout, tu as toutes les aides, tu as tous les concerts, et ça, dans n'importe quel style. Tant que tu es en dessous, tu as droit à rien, tu dois te débrouiller comme un crève-cul. Et dès que tu es au-dessus, en fait, tout le monde vient te chercher. Classique 21, c'est la honte du service public. Alors qu'en fait, la scène locale, elle est super riche. Et je pense qu'à Bruxelles, il y a une scène locale très, très riche.
Voilà, des témoignages qui, je le rappelle, datent de l'été dernier, depuis la situation... a évolué avec notamment toute cette période actuelle de revendication pour la culture, avec notamment Still Standing for Culture. Peut-être que si ce qui ressort de tout ça, c'est que pour que la culture, et en particulier la scène musicale locale, s'enrichisse et se développe en Belgique, il est essentiel d'unifier les travailleurs, de désindividualiser la lutte en s'organisant en collectif. C'est d'ailleurs ce que fait Fakir, par exemple, une fédération belge par et pour les musiciens et musiciennes qui cherchent à représenter les travailleurs auprès des politiques. Peut-être que le combat ne se situe pas uniquement auprès de nos politiques, mais également au niveau des canaux de diffusion, je pense particulièrement au streaming et aux réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse sur une composition de Denis Batten pour son groupe Soil Painting, Living on an Iceberg. We'll be right back.
m'avais dit que j'allais tenir une chronique dans cette émission, je me suis mise à réfléchir à des sujets. J'ai pensé à tous ces sans-logements, à tous ces sans-papiers, aux femmes seules avec des enfants, au monde de la culture, au statut de cohabitant qui réduit les allocations de moitié, empêche des jeunes de rester chez leurs parents, alors que les allocations complètes ne permettent même pas de vivre correctement seules. Et à tous les jeunes, totalement ignorés par ceux qui gèrent la crise Covid et constamment insultés par des vieux aigris qui les accusent de tous les maux, etc. Et j'ai décidé de vous parler des oubliés de la crise que je connais le mieux, puisque je les fréquente depuis que j'ai 20 ans. Les citoyens qui font le boulot. En ce moment, je suis notamment bénévole pour 2,50 euros. C'est une association de citoyens et de citoyennes qui est née en réaction à ce qui se passait au parc Maximilien, où des milliers de migrants tentaient de survivre sans aucune aide publique, sans toit, sans vêtements, sans nourriture, sans soins, et d'échapper à la violence policière permanente exercée sur eux. Il s'agissait de préparer des pique-niques pour chacune de ces personnes chaque vendredi. 2,50 euros, c'était le prix d'un sachet pique-nique. Depuis, on fait des repas chauds, mais le principe est le même. Tout ça est bénévole et tout ça est financé exclusivement par les dons du citoyen. J'avais choisi 2,50 euros parce que c'était pour tout le monde. On ne demandait pas aux gens d'où ils venaient et quel était leur statut avant de leur donner à manger. On ne faisait pas de différence. Tu as faim ? Prends un repas, c'est tout, c'est simple, c'est normal. J'ai aussi choisi cette association parce qu'elle n'était pas faite pour durer. Elle existait en attendant que les autorités prennent des gens en charge. J'y suis depuis 3 ans et demi. Pourtant, on ne devait plus exister puisqu'il n'y a plus foule au parc Maximilien. Mais il n'y a plus foule au parc Maximilien, c'est parce que des citoyens ont relogé les gens. On ne devrait plus exister puisque depuis la crise Covid, les pouvoirs publics ont centralisé l'aide. Et pourtant, on est toujours là, à financer de la nourriture et à la préparer. Au tout début, on préparait 250 repas chaque vendredi. Très vite, on a dû en préparer 650. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont hébergés sur la durée, du moins tant que la crise Covid sévit, dans des familles, mais aussi dans des dispositifs spécialement installés. Mais on prépare encore 350 repas chaque vendredi pour des gens qu'on est parvenu à installer dans des occupations. Encore une fois, des citoyens ont fait le job. Et je sais déjà que ce chiffre va gonfler après la crise, quand les hébergeurs seront déconfinés, qu'ils reprendront leur vie là où ils l'avaient laissée, qu'ils repartiront ici et là, quand les dispositifs Covid disparaîtront. Mais aussi parce que le nombre de sans-abri et le nombre de sans-revenus gonflent à vue d'œil. Je les vois partout, dans les gares, dans les rues, dans les beaux quartiers, j'en vois de plus en plus. Je vois de plus en plus de dames âgées tendre la main pour pouvoir manger. Je vois des files devant les banques alimentaires s'allonger de manière incroyable. Je vois les files devant les soupes populaires prendre des proportions désespérantes. Ces gens n'intéressent absolument personne là-haut. Et ce que je ne parviens pas à voir, c'est quelque chose de positif ressortir de tout ça. Je sais très bien que tant que des gens comme moi s'occuperont de tout ce qui tourne mal dans ce pays, il n'y aura pas de bonne solution, parce que nous ne sommes pas professionnels, parce que nous nous épuisons, parce que nos moyens à nous aussi ont diminué, et parce qu'il n'y a rien d'inhumain à manger une tartine avant de nourrir les autres. Je sais très bien que tant que les pouvoirs publics ne feront pas le job, nous le ferons. Je sais très bien que tant que nous ferons le job, les pouvoirs publics ne le feront pas. Mais rien ne nous garantit que si nous abandonnons le terrain, ils y prendront place. C'est pourtant leur place, pas la mienne.
C'était les chroniques du TAF au fumoir. N'hésitez pas à nous faire des remarques ou des commentaires sur l'émission via notre site arc-culture.be. Merci à Radio Panique, ainsi qu'à Adrien, Lauriane, Fabienne, Denis et Pierre pour leur participation à cet épisode.